Chapitre 17e, Juvenilia. Les affaires de Constantin Michel le retinrent quelques semaines encore pendant lesquelles il continua à vivre avec Ariane. Il ne se sentait pas la force de rompre et de rester à Moscou. Il fallait au jour de la rupture inévitable quitter la ville et s'enfuir à Pétersbourg. Connaissant le caractère de la jeune fille et le comble d'amour-propre où elle s'était élevée, il savait qu'il suffirait de formuler sa volonté d'en finir pour que tout aussitôt elle le quittât. Cette fille orgueilleuse serait capable, par pique, de prendre un amant le jour même de la rupture, de façon à rendre tout retour impossible. Elle n'écrirait pas, elle ne téléphonerait pas, elle ne le suivrait pas à Pétersbourg. Tandis que la résolution de la quitter s'affermissait en lui, il vivait près d'elle dans la même intimité, mais il la regardait comme quelqu'un auquel on a été étroitement attaché et que l'on va perdre. Au moment de rompre et alors que le sacrifice était déjà consommé dans son esprit, il lui parlait avec plus de douceur. Il ne s'emportait pas, il ne la rudoyait pas. Il n'avait plus cette sécheresse glaciale dont il s'était servi comme d'une armure contre elle. Ils avaient maintenant de longues conversations sans dispute. Ils évitaient l'un et l'autre les sujets dangereux, les questions irritantes, les mots dont il jaillit des étincelles. Souvent, il se faisait raconter les histoires de son enfance passionnée. Un soir, comme à une remarque déplacée de sa part, il lui disait en riant « Comme tu as été mal élevée, petite fille !»«
C'est faux !»
répondit-elle. « Je n'ai pas été élevée du tout !»« Je te raconterai, si cela t'amuse, comment s'est passée mon enfance. Quand j'étais petite, nous avions un appartement pour l'hiver à Rome. Ma mère était belle, élégante, courtisée. Je vivais à l'écart avec ma gouvernante, une Française, Mademoiselle Victoire. C'était une vieille fille d'une quarantaine d'années, pieuse, bonne, sans intelligence, soumise à tous mes caprices. Tout enfant, j'étais un petit phénomène, c'est-à-dire que j'avais une mémoire si souple qu'il me suffisait de lire une fois une chose pour la savoir par cœur. Et comme personne ne s'inquiétait de ce que je faisais, tu vois où cela pouvait mener. J'avais appris à lire presque seul à 4 ans. Je me souviens qu'un livre de chimie me tomba dans les mains. J'en appris la première page et un jour, à table, comme il y avait plusieurs personnes à déjeuner, mon parrain me demanda ce que je savais, et moi de réciter ma page de chimie sans en sauter un mot. Je n'y comprenais rien, cela va sans dire. Il n'en savait pas davantage. Les voilà stupides d'admiration. Des éloges, des compliments à n'en plus finir. Ma mère, qui ne s'occupait pas de moi, en était toute fière. Aussi, plus tard, quand il y avait du monde au salon, on m'y appelait. Mademoiselle Victoire me mettait une robe blanche avec une belle ceinture, me frisait les cheveux, et je faisais mon entrée. Il me fallait dire des fables. Et les dames m'embrassaient, et les hommes m'interrogeaient. Rien ne m'était plus désagréable que les baisers de ces femmes poudrées. Quand elles me prenaient dans leurs bras, je disais « Vite, pas sur les lèvres et ne me mouillez pas. » Alors, tout cessait de rire. Bientôt, je trouvais humiliant d'être exhibé comme un chien savant. Je refusais net de paraître au salon. Un grand scandale. Mon père vint me chercher. Ses prières, ses menaces furent vaines. Je m'accrochai à mon lit, et comme il essayait de me prendre, je fis retentir la maison de mes cris. On finit par me laisser vivre en paix avec Mademoiselle Victoire. Nous faisions ensemble de grandes promenades, et je l'emmenais dans les plus sales quartiers de Rome. La pauvre fille avait peur, me suppliait de rentrer, multipliait les signes de croix, et m'entraînait dans la première église que nous rencontrions. Là, elle priait pour se remettre de ses émotions et allumait un cierge. Cependant que je parcourais l'église, me divertissant dans les bas-côtés à sauter sur un pied de dalle en dalle. Plus tard, j'avais 10 ou 12 ans, ma mère se servait de moi. Elle avait très bien deviné que je n'avais que du mépris pour mon père, et que quand même il n'y avait aucune intimité entre elle et moi, je ne la trahirais jamais. Pourquoi avais-je ces sentiments pour mon père? Je le voyais rarement, car il était toujours en voyage. Je me souviens que, toute petite déjà, j'avais senti qu'il ne m'aimait pas. Il avait une drôle de façon de me regarder. Il était très gentil, mais il me traitait comme une poupée. Quand il parlait de moi à ma mère, il disait toujours « cette petite ». « Cette petite est très intelligente, cette petite est curieuse, etc., etc. » Il ne me grondait jamais, mais il était comme un étranger qui aurait vécu chez nous quelques mois par an. Il y eut une fois, entre ma mère et lui, une scène violente dont je fus le témoin. Il était arrivé de Pétersbourg à l'improviste. Que trouva-t-il à la maison qui lui déplut? Mystère. Mais à table, sur un mot de ma mère, il se fâcha, et pour je ne savais quelle raison, l'accabla de reproches. Alors il se leva, jeta sa serviette par terre et dit « Je m'en vais, et je ne reviendrai jamais. »« Bon voyage !» répondit ma mère. Il m'embrassa et sortit. À ce moment, je ressentais du respect pour lui. Il me semblait qu'il s'était conduit comme un héros. Il partit le soir même pour Paris. Jamais je ne pensais tant à mon père. Il n'avait pas cédé. Il avait fait ce qu'il avait résolu. Je l'admirais pendant 15 jours. Puis soudainement, un matin, je le trouvais dans la chambre de ma mère assis sur le lit. Il était arrivé dans la nuit. Quand j'entrais, il me parut que je les dérangeais. Ils riaient tout haut tous les deux, et ma mère jouait avec un collier de perles qu'il lui avait apporté. De ce jour-là, je n'eus plus que du mépris pour lui. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je voulais te raconter comment ma mère m'employait à des choses très obscures et sur lesquelles elle ne me disait rien. J'étais déjà grande fille. Nous étions à Cannes cet hiver-là, et nous avions une villa à la Californie. J'allais à un cours en ville tous les matins. Mademoiselle Victoire m'accompagnait, mais je rentrais seul par le tramway, car je n'acceptais pas d'être toujours escorté de cette bonne Victoire. Maman, cela m'avait étonné, avait accepté cet arrangement. Elle me chargeait de petites commissions à faire pour elle. J'étais fier d'avoir gagné mon indépendance à 12 ans. Un jour, ma mère me dit « Passe donc à la poste et demande s'il y a quelque chose à ce chiffre-là. » Elle me tendit un petit morceau de papier sur lequel je vis écrit « XB 167, poste restante ». En sortant du cours, je fus à la poste et tendis mon billet au guichet. L'employé, un homme âgé, à lunettes, me regarda, haussa les épaules, murmura « C'est malheureux tout de même ». Atteignit dans un casier une liasse de lettres, et en prenant une, me la jeta avec mauvaise humeur. Je la rapportai à maman qui m'embrassa et me donna des chocolats. Le même manège se reproduisit à intervalles réguliers. Elle ne me dit jamais qu'il ne fallait pas parler de ses courses à la porte, mais je sentais bien qu'il y avait là un secret entre nous deux. Quand mon père était près d'elle lorsque je rentrais avec une lettre, je me gardais de la remettre. Un jour de printemps, j'étais à la poste et m'approchais du guichet quand soudain mon père parut devant moi. « Que fais-tu là ? » dit-il d'un ton caressant. J'eus un instant d'émotion. Je devinais tout de suite qu'il m'avait guetté et qu'il soupçonnait mon manège. Mais au même instant, je compris qu'il avait fait une faute de tactique. Eût-il attendu 2 minutes de plus, j'étais prise. Je me dis « Quelle sottise !» Cela ne m'étonne pas de sa part, et je lui répondis « Je viens acheter des timbres. »« Mais il y en a à la maison, » fit-il d'une voix plus dure. « Pour toi et pour maman, peut-être. Pour ma correspondance, j'achète mes timbres moi-même. » Il ne put rien tirer de moi. Je ne soufflais mot à maman de cet incident. Comment lui en aurais-je parlé ? Il n'y avait aucune intimité entre nous, seulement une complicité. Elle s'arrêta. Bu une gorgée de thé, alluma une cigarette. Constantin restait silencieux et triste. Elle le regarda et dit « Veux-tu encore un trait pour comprendre quels étaient les rapports entre ma mère et moi ?» Nous étions à Rome, 1 an avant sa mort. J'avais à peine 13 ans. Je parlais et j'écrivais l'italien aussi bien que le russe. Ma mère, un jour, vint dans ma chambre. Elle paraissait embarrassée. Elle me tendit une lettre écrite par elle en italien. « Écoute, petite, me dit-elle, voici une lettre que je te demande de corriger. Nous écrivons un roman en italien avec un ami, un roman par lettre. Mais je ne suis pas aussi forte que toi, il faut que tu m'aides. Oh, pour les fautes de grammaire seulement. » Elle partit, et je lus la lettre. C'était une folle prosopopée d'amour, où l'héroïne rappelait l'ivresse des rendez-vous anciens et suppliait d'en accorder un encore. Elle était criblée de fautes. Je la corrigeais, elle la rendit à ma mère le soir, sans un mot. Elle me dit merci et parla d'autre chose. Tu penses que je ne fus pas dupe de sa fable. Je me souvins d'un officier de marine qu'on avait eu souvent chez nous et qui avait disparu. Voilà comment j'étais élevé, monsieur le critique. Osez maintenant me faire des observations. Constantin soupira et ne dit rien.